Notre invité nous propose son livre, son nouveau qui sera disponible, sauf erreur, à compter de demain. Le titre, Vieillir avec panache. Jocelyne Robert est avec nous. Madame Robert, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Premièrement, mettons les choses clairement sur la table. Vous aimez le mot vieux, le mot vieille. Vous avez pratiquement un lexique dans le livre pour parler directement des vraies choses. Les aînés, les gens du troisième âge, moins un peu.
Les personnes âgées. Ouais, ben, j'essaie de montrer que ce sont des euphémismes, au fond, puis pourquoi on a eu besoin, dans nos sociétés, là, occidentales, d'inventer des mots pour ne pas nommer les choses. Je veux dire, vieux, là, il y a la particule vie là-dedans. Ça, c'est comme si on avait été obligé de rappeler que les vieux sont encore vivants. Bon, et puis je trouve que personne âgée, entre vous et moi, moi-même, je le dis, là, on est tellement habitués. Mais ça veut rien dire. Je veux dire, ma petite fille, c'est une personne âgée de 26 ans, puis vous êtes une personne âgée de, ben, je sais pas, moi, à peine 60 ans, peut-être, j'en sais rien.
Oui, non, c'est ça, 60 ans pile.
Oui, je sais, vous êtes entre le X puis le boomer, là, vous, là. Ben, c'est ça. Puis je me dis, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'inventer tant de mots? C'est parce que, pour moi, ce qui n'est pas nommé, vous le savez, je suis un petit peu obsessive sur les mots parce que je trouve qu'ils ont du pouvoir, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Comme par hasard, on ne nomme pas les vieux, les vieilles, la vieillesse, le vieillir, le vieillissement. Et puis, ben, dans la réalité, il n'existe pas le diable, nos vieux et nos vieilles, je m'inclus là-dedans. Alors, je pense qu'il faut, il faut prendre conscience que l'âgisme, parce que c'est de l'âgisme, ben c'est probablement, tu sais, on parle beaucoup de racisme systémique, c'est probablement la ségrégation la plus systémique qui soit.
Est-ce que je comprends dans votre livre, je lisais ça en fin de semaine, là, et la première réflexion, c'est avis aux jeunes, c'est pas vrai qu'on va se taire et on a encore des choses à dire et on va prendre notre place. Et de toute façon, les boomers, c'est une génération qui a toujours occupé beaucoup de place et qui va continuer d'occuper beaucoup de place.
Oui, il y a un petit peu ça. Certes, il y a ça, mais il y a plus que ça. Il y a aussi, vous allez vous retrouver là bientôt, tu sais. Et au fond, là, l'âgisme, c'est une espèce d'auto-détestation. C'est comme si on ne pouvait pas supporter qu'un être humain, ça vieillit, tu sais. On fait une croix là-dessus. On veut pas le voir. Et oui, c'est un peu ce que je dis. Puis pourquoi, M. Arcan, pourquoi les boomers dérangent? C'est pas une apologie des boomers que je fais, là, pas du tout. Mais pourquoi ils dérangent ça? Ben, c'est justement parce qu'ils se comportent encore comme des êtres humains, des hommes et des femmes vivants et vivantes. C'est pour ça qu'ils dérangent ça. Et ça, c'est relativement nouveau. Il y a plein d'affaires nouvelles dans notre univers. C'est la première fois dans l'histoire, par exemple, que 5 générations sont sur la boule en même temps. Là, on franchit le cap en 2000, le cap du troisième millénaire ensemble. Donc, il y a des nouvelles réalités. Et les boomers ont peut-être, justement, cette particularité de dire, ben, nous autres, on existe. Et puis, on va jusqu'à la fin s'arroger le droit de profiter de toutes les prérogatives du vivant parce qu'on n'est pas mort. Exemples.
Non, allez-y. Oui, j'allais vous dire, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec l'énoncé suivant, là, mais
oui.
C'est pas normal qu'une génération plus jeune conteste la génération plus vieille. De dire, moi j'ai contesté mes parents, puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais vivre comme vous autres. et que vos enfants vous disent, ben moi, j'ai pas envie de vivre comme toi, puis ma vie va être différente, fait que tasse-toi.
C'est tout à fait normal et je le reconnais. J'en ai été. Ma fille en a probablement et en a sans doute été aussi à un moment de sa croissance. C'est normal. Mais là, on n'est plus devant ça. D'après moi, on n'est plus dans le conflit générationnel parents-enfants, parents-jeunes. On est dans une sorte de monde les vieux contre les jeunes. C'est pas pareil, Paul. C'est autre chose. Regardez la maudite COVID, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, a mis ça beaucoup, beaucoup en lumière. Hein. Ça a eu un effet de loupe. Ça nous a montré que, les vieux, là, leur vie est finie de toute façon. Ils peuvent bien disparaître. Nous, combien d'horreurs on a vu, puis je veux pas trop aller dans les horreurs, mais sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on sait de la personne qui a 80 ans, de l'importance de l'année ou des 2 ans qui lui restent? C'est peut-être des années fondamentales pour cette personne-là. Alors, on n'en sait rien. C'est pas vrai que parce qu'on a 75-80 ans, c'est moins grave qu'on meurt. Puis je dis pas ça parce que je m'en vais là. Je pense ça depuis au moins une dizaine d'années. Et puis cet événement-là, cette pandémie-là qu'on vit, a été pour moi un petit peu le point de bascule là pour dire bon, ça fait 10 ans que je rencontre des vieilles personnes, des hommes, des femmes dans des conférences partout au Québec. J'ai presque fait le tour. Ben là, je vais partager pas ma vérité, mais les vérités, les choses qu'on m'a dites, qu'on m'a montrées. Et regardez, je prends un exemple pendant la COVID. On est encore dans la COVID, là, mais moi, il y a une période au moment où j'ai décidé d'écrire ce livre-là, où j'étais devant télé comme tout le monde, tous les jours, hein, le point là avec les trois mousquetaires qui nous disaient où on en était. Et ce qui me frappait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand une personne plus jeune mourait de la COVID, écoutez, j'ai vu plein de reportages. Qui était-il? Qui était-elle? Quel travail faisait-il? Faisait-elle le nombre d'enfants? La vie de cette personne-là? C'est correct. Mais je n'ai jamais vu un reportage sur une personne de 75 ans qui venait de mourir. Quelle avait été sa vie? On ne les saluait même pas, c'est un chiffre. C'était des numéros, c'était des chiffres. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. C'est bien évident qu'on peut pas faire des reportages sur tout le monde. Là. C'est pas ça que je dis non plus.
Mais j'ai une dernière question parce que le temps file vraiment.
Il n'y en est pas question.
vous dites très clairement aussi aux personnes, là, aux vieux et aux vieilles, oui. Là, prenez soin de vous, occupez le terrain et soyez conscients de ce que cet âge-là vous réserve et trouver les aspects positifs, pas juste le côté santé, maladie.
Je dis ça, oui, puis je dis aux plus jeunes aussi. Il y a quelque chose de pas normal dans le fait que la vieillesse arrive comme quelque chose d'inattendu. Ça prouve à quel point on l'a nié, ce qui s'en vient. Ça nous frappe toutes par surprise. Ben, regardons ça. Ça arrive. C'est comme si on y avait pas pensé. Alors, c'est une réalité qui fait partie de ce que nous sommes, de notre devenir. Puis dans ce que j'appelle l'âgisme, puis je tiens à le dire avant qu'on se quitte, il y a plusieurs formes. Il y a aussi, il y a la boomerophobie qui est une catégorie de l'âgisme. Il y a l'espèce de d'âgisme bienveillant qui me fatigue encore plus que l'âgisme franc, c'est-à-dire cette espèce d'infantilisation des personnes âgées. C'est comme si c'était un magma d'humanité, là, tout pareil, qui retombe en enfance, on les traite comme des petits lutins. Tu sais combien de fois j'ai entendu dans des centres, des institutions, « Oh, ma petite madame, là, quel dégât que vous m'avez fait le matin! » Puis c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient un petit lutin, là, puis une petite chose infantilisée et à traiter comme un enfant. Alors, je pense qu'il faut qu'on s'invite, je m'inclus là-dedans, à prendre conscience de ça. On n'est pas l'âgisme, par exemple, que j'appelle moi bienveillant, qui est l'âgisme gentil. On n'est pas toujours conscient de ça. On l'est même rarement. Et il faut se rendre compte que c'est là, c'est en nous, ça a été plus ou moins consciemment organisé, cette attitude-là à l'égard des personnes plus vieilles, des hommes et des femmes plus vieux, mais ils sont aussi différents les uns des autres que les personnes de 40 ans, de 50 ans, de 25 ans. C'est pas vrai qu'ils sont toutes pareils, là, puis au bord du gouffre, inutiles, et vous savez, il y a de plus en plus de gens, puis j'en cite dans le livre d'ailleurs, puis des gens connus, mais je parle aussi de gens pas connus que je veux faire connaître, qui ont 80, 90 ans, 95 ans, des êtres créatifs, productifs. Arrêtons de mettre, c'est sûr que la maladie nous guette davantage, la vulnérabilité nous guette davantage, mais le sens du plaisir et du temps, du temps libre et du temps de liberté dont on peut profiter, nous guette aussi. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience.
Et je ne peux pas faire une entrevue avec vous sans mentionner au passage, pour conclure, qu'il faut toujours avoir aussi un soupçon d'érotisme. Peu importe l'étape de la vie. Voilà.
Ben, vous avez remarqué, j'ai un chapitre là-dessus qui est important, mais qui n'est pas plus important que les autres, mais qui est là parce que moi, une des souffrances que j'ai rencontrées depuis une dizaine d'années, comme je vous le disais, dans les conférences, dans les ateliers que j'ai animés avec des personnes vieillissantes et vieilles, c'est cette souffrance-là. Puis pas d'une manière étriquée, là. C'est pas que les vieux et les vieilles ont une libido à tout casser. C'est pas ça que je dis. Il y en a qui en ont une à tout casser, mais c'est pas tout le monde. Mais c'est d'être considéré à être considéré comme des hommes et des femmes. Ils ont besoin de ça. D'ailleurs, on dit rarement les hommes et les femmes âgées. On dit presque toujours les personnes âgées. Comme s'il y avait une dimension. Il y a des parties, des dimensions de l'être humain là sur lesquelles on mettait des croix là, à partir d'un certain âge. Alors, on reste un homme et une femme jusqu'à la mort avec des besoins, des limites, des envies, un érotisme. On n'est plus dans la performance, c'est un fait. Mais quand on quitte la performance, la plupart du temps, on entre dans l'érotisme. Parce que la performance, c'est de la job, c'est du travail.
Là,
vous êtes obligé de me laisser.
Ben oui, absolument.
Maudit.
Ben, en tout cas, pour aujourd'hui, on s'en prendra une autre fois.
D'accord, merci Paul Arcand. Vous voyez, on a vieilli de 15-20 minutes ensemble, là, puis ça ne nous a pas fait mal.
Pas
merci.
Du tout. Au revoir. Jocelyne Robert, le bye titre bye. Du livre « Vieillir avec panache ». Et vous allez retrouver ça en librairie aux éditions de l'Homme. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le point de presse 13h sur la vaccination, entre autres. Et on devrait avoir les détails de la campagne de vaccination massive. La semaine prochaine, on va aller à l'extérieur donc des établissements. Puis plus les doses vont rentrer, plus on va vacciner. Alors, il y aura un site web pour vous inscrire. Allez pas là tout de suite, là. C'est pas le moment. Mais Québec nous dit, depuis des semaines, nous sommes prêts. Il manque le carburant, les vaccins, là, les doses commencent à entrer. C'est plus important. Alors, on verra si la machine est capable de les prendre et surtout de quelle façon. Là. Puis je le sais, vous avez dit, moi, j'ai pas Internet, comment m'en faire? On va s'en reparler demain. On va écouter les propos du gouvernement, M. Legault, M. Arruda, M. Dubé. Et c'est au moins l'opération qui est peut-être attendue et aussi intéressante. Bonne journée, Isabelle s'en vient.